Alors, ça fait peut-être la deuxième fois que je viens. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que je vais venir après avoir écouté la prédication de ce matin. Nous venons de chanter Son nom est merveilleux. Alors, le chanter, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie personnelle de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que le Seigneur a permis que vous voyiez de vos yeux et que vous vous êtes dit à un moment donné, merci Seigneur, parce que ce jour-là, j'étais assis et je ne suis pas tombé à la renverse. Deux histoires avant de lire le texte de ce matin. La première personne, elle s'appelle Danielle. Elle vient dans des études bibliques à Malais-le-Grand. C'est juste à côté de Sens. C'était une personne handicapée. Les médecins lui donnaient aucun espoir de remarcher. Je dis bien que les médecins ne donnaient aucun espoir de remarcher. Un jour, dans une étude biblique à Malais-le-Grand, cette jeune femme s'est levée de son fauteuil roulant, elle s'est mise debout et j'ai dû dire de tout mon cœur, waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Je l'ai vue il y a 15 jours. Elle porte des talons de 10 à 12 cm et elle court. Elle fait du sport maintenant. Je me dis quand même Dieu est quand même merveilleux. Les médecins lui donnaient aucun espoir de remarcher un jour. Deuxième histoire. Il s'appelle Eric. En 2020, il est interpellé par la COVID-19. Ça le tourmente. Il est bousculé par ce qui se passe dans le monde autour de lui. Il désire lire la Bible. Il court à Leclerc et achète une Bible Louis II. Vous pouvez trouver à Leclerc. Je ne fais pas de la publicité pour ce personnage, mais vous pouvez trouver dans des grandes surfaces des Bibles. Et lui, il a trouvé une Bible Louis II. Il se convertit. Il vient aujourd'hui à l'église de Marolles-sur-Seine. Il suit des études bibliques et il veut passer par les eaux du baptême. Moi, je dis, waouh, Dieu est quand même merveilleux. Dieu fait des choses étonnantes qui nous surprennent. Qu'on le veuille ou pas, au 21e siècle, Dieu fait encore des choses étonnantes. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez dans votre cœur que Dieu fait encore des choses étonnantes et surprenantes? La Bible regorge d'histoires étonnantes. Et quand je regarde certains passages de la parole de Dieu, je me dis, waouh, il fallait y assister à cette histoire. Il fallait la voir, il fallait vraiment être surpris par cela, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous lire le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Alors, je sais par expérience que quand on lit la Bible, vous vous levez ici. Alors, vous allez vous lever pour qu'on lise ce passage. Matthieu, chapitre 14. Les versets 12 à 21. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il lui dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Veuillez reprendre place. Comme vous pouvez le constater, cette histoire est étonnante, n'est-ce pas? Elle est merveilleuse. Moi qui suis un ancien cuisinier, enfin je ne le crie pas sur les toits, mais maintenant je suis enregistré. Donc, j'ai déjà fait à manger pour quelques centaines de personnes. Mais 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, moi, ça m'aurait, je dirais, fait peur un petit instant. Peut-être pas rapidement, mais un petit instant. Et le texte nous montre qu'il y a eu un peu de panique pour certaines personnes là, dans ce texte. Mais étonnant, n'est-ce pas, de voir que Jésus a nourri 5000 personnes. Certains commentateurs de la Bible disent qu'il y avait là, assis, entre 15 000 et 20 000 personnes. Pour moi, c'est la petite ville qui est juste à côté de Marolles-sur-Seine, Montereau, qui est à peu près 18 000 personnes. Je vois à peu près le montant de personnes. Ça fait quand même pas mal de personnes. Étonnant de voir que les disciples ont paniqué devant la foule. Renvoie la foule, verset 15. Panique complète de la part des disciples. Mais mettez-vous à leur place un instant. Je ne sais pas si on vous dirait ce matin, allez, tout à l'heure il y a la gape, il va falloir que tu fasses à manger pour 150 personnes. À mon avis, vous allez aussi paniquer, n'est-ce pas? À moins que d'avoir un gros portefeuille, vous allez les apporter à McDo juste à côté ou autre chose, mais n'est-ce pas, vous allez sûrement paniquer. Étonnant de voir que Jésus fait des miracles extraordinaires. La multiplication des pains. Je n'ai pas téléphoné à Albert pour lui demander son thème sur l'adoration. Oui, c'est vrai que la multiplication des pains est une prédication un petit peu spéciale, mais je voudrais quand même vous rappeler, parce que je sais lire la Bible, Jésus a multiplié aussi les paniers et les restes. Les 12 paniers, c'est l'affaire du Seigneur aussi. Alors remettons son texte dans son contexte, si vous voulez bien. Parce que qu'est-ce que j'aime dire cela? Parce que souvent, aujourd'hui, quand certains prédicateurs lisent la Bible et interprètent la parole de Dieu, bien souvent, ils font un texte pour leur prétexte personnel. Le texte ici nous dit quelque chose de clair. Il y a 2 choses à retenir, une annonce et un repos. Tout d'abord, l'annonce. Jésus fut certainement affecté par l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. À l'annonce, le Seigneur veut se retirer dans un lieu désert. Il est prudent. Il veut aller dans un endroit tranquille parce qu'il venait d'apprendre que Jean-Baptiste a été décapité. Deuxième chose dans ce texte, Marc nous le précise, les disciples avaient besoin de repos, comme le Seigneur aussi avaient besoin de repos. Ils sont découragés par ce allant et venant de plusieurs personnes là. Et le Seigneur, comme les disciples, avait besoin de tranquillité un petit peu. Ce qui me surprend dans le texte, c'est que le Seigneur nous montre que, en voyant la foule, il est ému de compassion. Le texte en grec dit clairement qu'il est bouleversé dans ses entrailles. C'est-à-dire que, en voyant la foule, il est complètement bouleversé dans son être intérieur. Le Seigneur a souvent été bouleversé en voyant cette foule qui avait besoin de nourriture et matérielle et spirituelle. Le texte que nous avons là, la multiplication des pains, les quatre évangiles en parlent. Marc chapitre 6 en parle, Luc chapitre 9 en parle, Jean chapitre 6 en parle et Matthieu chapitre 14 en parle aussi. Quelques caractéristiques dans ce passage. Une foule imposante. Beaucoup de personnes suivaient le Seigneur Jésus. Quand on lit la parole, quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que beaucoup de personnes venaient voir Jésus. Pourquoi ? Par curiosité. C'est sûr que Jésus ne faisait pas les mêmes choses que les scribes et les pharisiens de l'époque. Il faisait des choses incroyables, il faisait des choses extraordinaires, il faisait des choses que même les êtres humains de l'époque ne faisaient pas. Ça devait attirer, bien sûr, la curiosité. Il y avait un enseignement qui était donné de la part du Seigneur qui était complètement différent des scribes et des pharisiens de l'époque. La Bible nous dit que la foule était languissante et abattue. Matthieu chapitre 9 nous en parle. C'était des personnes qui étaient blessées, elles étaient mal soignées de la part du peuple de l'époque, des religieux de l'époque. Elles étaient épuisées, elles étaient égarées. C'était des personnes qui avaient besoin d'un réel repos spirituel pour leur âme. Et le Seigneur leur a apporté la solution au travers de sa vie personnelle. Et je pense que ce qui est intéressant là dans ce texte, c'est de voir que la foule ne fait pas paniquer le Seigneur. La foule ne doit pas nous paniquer. Les personnes qui ont des problèmes, des handicapés, ne doivent pas nous paniquer. Le Seigneur fait des choses encore merveilleuses. Aujourd'hui, je le crois. Pour avoir vécu cette expérience et pour revoir régulièrement cette jeune femme, je me dis, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est extraordinaire au 21e siècle. Dieu fait encore des choses merveilleuses. Heureusement que Dieu avait compassion de la foule. Il allait vers les autres, il était attentif à ce que la foule avait besoin. Nous avons aussi besoin d'avoir de l'attention vis-à-vis des personnes qui nous entourent, que ce soit dans nos familles personnelles, que ce soit dans les personnes, notre voisin, notre entourage, nos endroits où nous travaillons. Nous avons besoin d'être attentifs et d'avoir de la compassion. Avons-nous de la compassion les uns pour les autres dans nos églises? Alors c'est bien beau de se voir dimanche matin. On va passer un petit moment ensemble dimanche matin. Mais après, quand on a passé le culte, quand on est reparti dans la vie active, on oublie tout. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? Le Seigneur nous demande d'avoir de la compassion pour un frère. Un problème, une situation, est-ce que je pense à lui dans la prière? Un test maintenant de Jésus pour ses disciples. Le verset 16 nous dit que Jésus leur demande de leur donner à manger. Mais si vous connaissez un petit peu la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, c'est Philippe qui est testé. Philippe va être testé dans sa foi. Philippe va, Jésus va demander à Philippe, à un moment donné, de une certaine situation, n'est-ce pas, qui va le déstabiliser à un moment donné dans sa manière de penser. Puisque Philippe va faire, je dirais, le calculateur. Il y avait des calculatrices à l'époque. Philippe va calculer, et si j'ai tant d'argent, est-ce que je vais pouvoir donner à manger pour tant de personnes ? Mais Philippe avait besoin de voir la main de Dieu agir dans cette situation. Philippe avait besoin de voir que Dieu est au-dessus parfois de certaines situations. Que Dieu est grand, nous le chantons, mais est-ce que nous le vivons ? Est-ce que nous vivons que Dieu est grand ? Philippe avait besoin de voir la grandeur de Dieu, comme ses disciples. Ils avaient besoin d'être peut-être éprouvés dans leur foi, mais Jésus s'est mis en action pour eux à un moment donné dans une situation particulière. Alors, quelques solutions, verset 10. Les disciples, renvoie-les, panique, débarrasse-toi de ce problème. N'est-ce pas, c'est ce que nous faisons parfois avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit qu'une prière n'est pas exaucée comme on voudrait bien qu'elle soit exaucée. Vous savez, on met le Seigneur parfois dans une boîte et on voudrait, Seigneur, voilà, je veux que tu exauces ma prière, mais de cette façon-là. Et au lieu de ça, les disciples ont dit simplement, voilà la seule solution qu'ils ont trouvée, débarrasse-toi de ce problème. Résolu ce problème, panique, peur. La solution de Philippe, combien ça coûte ? Alors il en faut des gens comme ça. Il faut des trésoriers. Priez pour votre trésorier. L'Église a besoin de trésoriers fidèles avec le Seigneur. Combien ça coûte ? On évalue le coût. N'est-ce pas ? C'est nécessaire d'avoir des bons trésoriers, des personnes qui réfléchissent avec leur calculatrice. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne réfléchissent même plus avec leur calculatrice. Mais on a besoin, n'est-ce pas, de ces personnes qui réfléchissent. Et bien souvent, on pense que c'est l'argent le problème du nerf de la guerre. Mais en réalité, ce n'est pas forcément l'argent qui est le problème de la guerre. La solution de Philippe, il trouve un jeune garçon. Je me suis posé la question en étudiant ce texte, est-ce que André a forcé ce jeune garçon à venir porter ses 5 pains et ses 2 poissons ? Je me suis posé la question. Je ne pense pas. Heureusement que la Bible ne nous le dit pas. Imaginez que la Bible nous aurait dit, eh ben, André a forcé, n'est-ce pas, d'aller apporter cet enfant devant Jésus. Je pense que cet enfant a donné ce qu'il avait de tout son cœur. Et il a donné de tout son cœur, et je dis merci Seigneur, qu'il a donné de tout son cœur ses 2 poissons et ses 5 pains d'orge. Parce que quelque part, je suis persuadé qu'il ne s'attendait pas à revoir 12 paniers de reste. Maman, j'avais 2 poissons et 5 pains d'orge. Je rentre à la maison avec 12 pains remplis. Je ne sais pas si vous savez compter, mais moi, je sais compter, hein, n'est-ce pas ? Il rentre plus que ce qu'il a donné. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que André a trouvé ce jeune garçon qui a donné tout ce qu'il avait pour le Seigneur. Et la solution du Seigneur, la véritable solution, c'est le miracle que le Seigneur va faire. Un miracle pardon, étonnant, il va nourrir là 20 000 personnes. Il prend un petit déjeuner d'un garçon, il rend grâce, il rompt le pain et le poisson et le remet aux disciples qu'il va commencer à distribuer à la foule. La foule est ravie, elle est rassasiée, elle a sûrement mangé 3 poissons, puisqu'ici ils sont rassasiés, c'est que tout le monde en a eu autant qu'il le désirait. Ça, c'était l'affaire du Seigneur, la multiplication des deux poissons et de ces cinq pains d'orge. Quelques applications pratiques de ce texte. La première application que je vois dans ce texte, c'est commence à donner à Dieu ce que tu possèdes. Commence à donner à Dieu ce que tu possèdes. J'ai rien. Ben, si tu as rien, tu ne peux pas donner puisque tu n'as rien. Mais si tu as deux poissons et cinq pains, donne-les au Seigneur. Commence à donner à Dieu ce que tu possèdes. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à celui qui peut-être, mais ne veut pas donner à Dieu. Combien de fois ai-je entendu cette phrase « Ah si j'avais ». Ah si je gagnais au loto, je donnerais davantage au Seigneur. Si j'avais. Je n'ai pas encore rencontré un milliardaire ou un millionnaire du loto, mais bien souvent, vous savez, ces gagneurs de loto, ça devient de plus en plus pixou. Ils font leur propre coffre. Quand ils gagnent, ils veulent voir plus personne. Bien souvent, ils vont dans des régions de France où il n'y a que des grosses voitures, des grosses maisons, où ils peuvent dépenser tout leur argent. Ah, si j'avais plus d'argent, je donnerais plus au Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne te demande pas de donner quelque chose que tu n'as pas. Le Seigneur demande simplement que tu donnes ce que tu as pour le Seigneur. Ah, si j'avais plus de temps, je servirais plus le Seigneur. Combien de fois l'ai-je entendu cette affaire? Si j'avais plus de temps, je servirais plus le Seigneur. Je m'engagerais plus pour le Seigneur. Mais en fin de compte, ce n'est même pas une histoire d'engagement. Ni une histoire, pardon, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'engagement. Si vous voulez servir le Seigneur, il faut simplement le servir de tout votre cœur et le Seigneur fera le reste. Combien de fois ai-je entendu, et je l'ai dit personnellement, donc je suis là en train de me culpabiliser un petit peu dans mon cœur, mais je dépassais ça. Ah, si j'avais plus de connaissances bibliques, je m'engagerais davantage avec le Seigneur. C'est ce que j'ai cru à un moment donné, avant d'aller à l'Institut d'Algrange. Je pensais que j'étais quelqu'un d'incapable. Je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas capable de servir le Seigneur. Le Seigneur connaissait mon cœur. Quand 23 ans après, je découvre avec mon épouse que je sers le Seigneur dans une église locale et que je prêche pratiquement tous les dimanches matins, je me dis, ouais, il n'y a que le Seigneur qui connaissait le temps. Parce que moi, à l'époque, je ne voulais pas du tout m'engager pour le Seigneur. Je ne voulais pas du tout le servir. Je voulais faire ma propre vie. J'avais une petite voiture de fonction. J'étais représentant dans le sud de la France. J'avais un salaire convenable à l'époque. J'avais une voiture de fonction. Mais qui arrêterait un travail quand on a tout? Quand j'ai dit à mon père, j'arrête tout et je vais servir le Seigneur dans une école biblique, il m'a dit, tu es fou, t'es pas bien. Et pourtant, le Seigneur a conduit et a dirigé toutes choses. J'aime beaucoup ce verset qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, ce que vous donnez au Seigneur, vous devez le donner de tout votre cœur. Le Seigneur se charge du reste. Deuxième application, si tu donnes à Jésus ce que tu possèdes, Jésus va le multiplier, Jésus va le bénir. Le miracle, c'est une affaire du Seigneur Jésus. Et croyez-moi, Je ne dis pas à Jésus tous les jours, écoute, je veux voir un handicapé se lever aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je dis, n'est-ce pas? Mais si je dois voir quelque chose d'extraordinaire, je suis prêt à dire, Seigneur, c'est toi qui as permis ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui a permis ça. C'est toi qui l'as permis. Et je dis, merci Seigneur pour cette affaire. Jésus va multiplier ce que tu possèdes. Et c'est lui qui va se charger de la multiplication. Vous connaissez ce texte dans Exode chapitre 4, verset 2. Il y a une question qui est posée là. Est-ce que vous vous souvenez? Excusez-moi. Dieu pose une question à Moïse. Qu'est-ce que Dieu pose comme question? Qu'as-tu dans ta main? Alors, dans ma version à moi, je n'ai pas vu qu'il y avait ni téléphone, ni ordinateur, ni tablette informatique. Hein? Donc, les jeunes, mettez ça de côté. Si vous connaissez le texte, Moïse va répondre, « J'ai un bâton, donne-le-moi. Donne-le-moi, je vais me servir de ce bâton. » Allez, quelques passages dans la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu comme moi, je la connais. « Bâton va servir à être changé en serpent. » Exode chapitre 7. Ce bâton va servir pour les 10 plaies d'Égypte. Exode chapitre 7, 8, 9, 10 et 11. Le bâton va servir à fendre la mer en deux. Exode chapitre 14. Le bâton va servir au miracle des sources dans le désert de Sin. Exode chapitre 17. Moïse avait simplement un bâton. Et il a donné à Dieu, et Dieu s'en est servi. David, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors, Saül a voulu lui donner une armure. Il s'en est très, très vite débarrassé. Par contre, David a dit, écoute, moi j'ai une fronde, et je sais m'en servir de cette fronde. Donne-la-moi. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est Goliath qui est tombé grâce à la fronde de David. Il n'y avait pas besoin d'un javelot. C'était de la pacotille, ça. Il n'y avait pas besoin d'une épée. Rigolo. Par contre, David savait très bien se servir d'une fronde. Et il s'en est bien servi, puisqu'il a terrassé le Goliath de l'époque. Et toute la foule est partie. Parce qu'à un moment donné, l'armée a été paniquée. 1 roi, chapitre 17. Qu'est-ce que tu as dans ta main, veuve de Sarepta? Oh, j'ai simplement dans ma poignée de main une farine, un peu de farine et un peu d'huile. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un gâteau avec ça? Allez, je vais vous donner une recette. La focaccia, c'est un pain italien, mais alors d'une splendeur à vous faire tomber en arrière si vous la mangez. C'est un gâteau, un pain en forme de gâteau, parce que l'huile d'olive va rendre toute la douceur à la farine à un moment donné. C'est quoi la focaccia? C'est de la farine, c'est du sel, c'est de l'eau, c'est de l'huile d'olive, un peu de levure et des épices. Waouh, je me dis, mais la veuve de Sarepta a fait un gâteau, je dirais, hors pair, n'est-ce pas? Un peu de farine, un peu d'huile d'olive, vous mettez tout ça et vous rajoutez un petit peu du sel et de l'eau, eh bien, ça fait de la focaccia. Merveilleux, n'est-ce pas? Élie a dû se tourner le ventre quand il a fini de manger, n'est-ce pas? Il était heureux, hein? À la petite veuve qui s'est approchée devant le tronc, vous pensez que Dieu a regardé ces personnes qui venaient avec la fanfare donner bien souvent leur superflu. Non, non, le Seigneur a regardé cette petite veuve qui a donné tout ce qu'elle possédait. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à donner tout ce que vous possédez? Ça fait, n'est-ce pas, réfléchir ces textes quand on les trouve. Ou souvent, vous faites comme moi. Vous tournez la page. Enfin, en tout cas, tant que vous avez une Bible, vous pouvez tourner la page. Hein? Mais souvent, quand on tombe dans des textes comme ça, on n'a pas du tout envie de voir l'enseignement, n'est-ce pas? Donner tout ce qu'on a pour le Seigneur. Dieu s'est servi d'une ânesse pour enseigner une vérité à Balaam. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte, Nombre chapitre 23. J'ai personnellement jamais parlé avec un âne, ou ni avec une ânesse. Même pas avec un chat. Il y a des gens, des fois, qui parlent avec des chats et des chiens. On a l'impression, n'est-ce pas, qu'ils leur répondent par des miaou, par des waouf. Mais bon, mais franchement, parler avec une ânesse, j'ai jamais osé. Mais franchement, Dieu s'en est servi à un moment donné parce que ce serviteur avait besoin d'être repris. Moi, là où je rigole, c'est que même pas il prend acte que c'est une ânesse qui est en train de lui parler. On a l'impression que dans le texte, il est en train de dialoguer avec une personne en face de lui. C'est rigolo, n'est-ce pas, de voir ce genre de choses. Mais Dieu peut faire parler un âne pour nous changer parfois d'orientation. Hein. Dieu peut permettre parfois à un serviteur de vous parler pour que vous puissiez changer d'orientation. Dieu ne nous demande jamais de lui donner quelque chose que tu n'as pas. Dieu ne te demandera jamais de lui donner quelque chose que tu n'as pas. Moïse avait un petit problème avec la langue. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il a dit, écoute, tu as un frère, il va t'accompagner, et il va être celui qui va parler à ta place. Mais d'après ce que je vois dans la Bible, Moïse a parlé aussi, hein? Moïse a parlé aussi. Hein? Vous savez, des fois, on demande des choses à Dieu, mais en réalité, le vrai serviteur, c'était Moïse qui devait aller. Et ce n'était pas forcément son frère qui devait l'accompagner. Donc Dieu, s'il vous donne quelque chose, eh bien, donne-le au Seigneur. Il t'a peut-être donné un don, il t'a peut-être donné un talent. Tu dois le donner au Seigneur de tout ton cœur pour que ça puisse être utile au service du Seigneur dans l'église locale. Troisième application, et ça sera la dernière, obéis à l'ordre du Seigneur. Dieu attend ta responsabilité. Dieu a fait asseoir par les disciples toutes les personnes et les disciples ont distribué ce que le Seigneur avait multiplié. Nous avons besoin parfois de faire asseoir les gens et de leur enseigner ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Mais qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a donné pour toi. Est-ce que tu en prends conscience? Jésus a tout donné pour toi. C'est vrai qu'il promet la vie éternelle. Mais il attend ta responsabilité de venir à lui, de lui demander pardon et de recevoir dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Les disciples ont ramassé 12 corbeilles. Ça, c'est quand même merveilleux de voir que le Seigneur peut toujours faire plus. Et on a besoin, n'est-ce pas, de voir ce qu'on appelle les sermons en action. Parce que c'est ce que je vois dans ce texte. Dieu a mis en pratique un sermon en action. Vous pensez que je suis quelqu'un de merveilleux? Vous pensez que je suis quelqu'un de grand? Aujourd'hui, vous allez le voir. Et je pense qu'on a besoin parfois de demander, Seigneur, mets-toi en action dans ma vie afin que je voie ta grandeur. Mets-toi en action pour que mon cœur soit changé. Seigneur, mets-toi en action pour que ce péché avec quoi je lutte depuis des années, je puisse le déposer au pied de la croix. Mets-toi en action dans ma vie. L'Église a besoin de toi. Est-ce que tu prends conscience que l'Église a besoin de toi? Le Seigneur a besoin de toi. Jésus est le pain de vie. Nous avons besoin de nous le rappeler tous les jours dans notre vie quotidienne. Alors je vais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu as à Dieu? Qu'est-ce que tu as dans ta main que tu peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu as dans ta main que tu peux offrir à Dieu? Un peu de temps, donne-le à Dieu. Un peu d'argent, donne-le à Dieu. Un peu de service, donne-le à Dieu. Dieu veut changer ta vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ces passages étonnants. Merci Seigneur pour ces passages qui sont tout simplement des sermons en action. C'est vrai que bien souvent, tes disciples te suivaient, Seigneur, et ils voyaient des choses extraordinaires se réaliser dans leur vie. Certains confessaient que tu étais un grand Dieu. Certains disaient que c'était quelqu'un d'étonnant. Et nous avons besoin, au XXIe siècle, de voir encore Jésus agir dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de nos parents, de nos amis, de nos proches, Seigneur. Oui, mets-toi en action, Seigneur, dans ces vies qui sont en train de se perdre. Le monde est loin de toi, c'est vrai. L'actualité nous le montre chaque jour que le monde est loin de toi. Mais en même temps, Seigneur, nous voulons voir des choses merveilleuses. Parce que je crois de tout mon cœur que tu es un Dieu merveilleux. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.